Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape a décidé de nommer deux femmes au dicastère pour les évêques. François parle de la valorisation des femmes au sein de la curie romaine dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters et diffusée le 4 juillet. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin poursuit son voyage sur le continent africain. Il a entamé l'étape du Soudan du Sud mardi 5 juillet où il a rencontré le président de ce pays Salva Kiir ainsi que le vice-président Riek Machar. Le souvenir de la retraite spirituelle organisée au Vatican en 2019 par le pape François a été au centre de leur entretien. Le magazine concerne la 61e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Accra, au Ghana, le 3 juillet dernier. Marie-Josée Moindo-Boisboileau vous dit encore une fois bienvenue à l'écoute de ce programme que nous commençons par l'actualité de l'Église. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, menée par Phil Poulet, là, le pape François a révélé qu'il nommera deux femmes au dicastère pour les évêques qui seront donc impliquées dans le processus d'élection des nouveaux pasteurs diocésains. Le souverain pontife a répondu à une question sur la présence des femmes au Vatican sur ce qu'établit la nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium qui réforme la curie et sur les dicastères qui pourraient être confiés à un laïc ou à une femme dans le futur. Je suis ouvert à l'opportunité qui me sera donnée. Actuellement, le gouvernorat a une gouverneure adjointe. Maintenant, deux femmes iront pour la première fois dans le dicastère pour les évêques, dans la commission pour élire les évêques. François a ensuite ajouté qu'il entrevoyait pour l'avenir la possibilité de nommer des laïcs à la tête de dicastères tels que celui des laïcs de la famille et de la vie, celui de la culture et de l'éducation ou encore la bibliothèque qui est presque un dicastère. Le Saint-Père a nommé Mgr Philippe Curbelier, actuellement chef de bureau au dicastère de la culture et de l'éducation, sous-secrétaire du dicastère pour la doctrine de la foi. Mgr Curbelier est né le 13 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, en France, et a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Toulouse le 30 avril 1995. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin poursuit son voyage sur le continent africain. Il a entamé l'étape du Soudan du Sud mardi 5 juillet. Des détails avec Stanislas Kambashi.
La seule lutte à mener est celle pour la paix et le développement. C'est une bataille à mener tous ensemble. Paix et développement sont deux choses liées, et l'absence de paix est source d'instabilité et d'insatisfaction. Les souvenirs de la retraite organisée au Vatican en 2019, durant laquelle le pape avait embrassé les pieds des dirigeants sud-soudanais, a laissé des traces. C'est ce qui est ressorti de la demi-heure d'entretien le mardi entre les cardinals Pietro Parolin et les présidents du pays, Salva Kiir. L'échange entre les deux hommes a tout d'abord porté sur la santé physique du pape et le report de son voyage en Afrique. Le cardinal Pietro Parolin s'est fait porteur d'un message du pape au président sud-soudanais, message qu'il résume en deux axes, réconciliation et paix, deux objectifs concrets à atteindre dans le pays. Il a surtout insisté sur ce qui reste à accomplir pour garantir une stabilité dans le pays qui a lancé un accord de paix arrivant à échéance en février 2023 et qui doit encore être mis en œuvre. Après l'entrevue avec Salva Kiir, s'est tenue la rencontre avec le vice-président Riek Machar, pour qui la venue du pape dans son pays aurait donné une impulsion aux différents processus en cours. Lui aussi a évoqué les souvenirs de la rencontre avec le pape au Vatican en 2019.
Merci Stanislas pour ces détails. À présent, le message vidéo du cardinal Miguel Angel Ayuso Quixot, préfet du dicastère pour le dialogue interreligieux. Myriam Sandouno.
Le préfet du dicastère pour le dialogue interreligieux a fait part de quelques brèves réflexions axées sur les principes qui inspirent et oriente la promotion de la liberté religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plus de 50 ans, lors du Concile de Rome qui a fixé l'orientation du troisième millénaire, l'Église catholique a partagé une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes. « Nous croyons », a indiqué le cardinal Ayuso, « et partageons un Dieu qui respecte la liberté de la personne humaine ». Dans le document conciliaire Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, il est mentionné que la pratique religieuse doit être libre. Elle doit être menée à l'aide de l'instruction, de la communication et du dialogue. Le préfet s'est aussi réjoui que de nombreuses institutions laïques aient également reconnu la liberté de religion ou de conviction, même si c'est pour des raisons différentes. Le dialogue avec les États et les institutions qui soutiennent cette liberté religieuse peut conduire à une meilleure compréhension et à des engagements à collaborer pour la paix, y compris dans le domaine spirituel.
Merci Myriam. Rendons-nous à présent en République du Congo où Séverin Moussavou nous fait part de la clôture de l'Assemblée spéciale pour les ouvriers apostoliques de Brazzaville le samedi 2 juillet.
À l'issue de l'Assemblée, les participants ont adopté plusieurs recommandations et résolutions, entre autres.
Les deuxièmes quêtes pendant la messe n'auront lieu désormais dans les paroisses qu'avec l'autorisation expresse de l'évêque. Le prêtre doit se vêtir d'une tenue ecclésiastique et d'une paire de chaussures le dimanche. Les paroisses sont tenues de déposer un rapport trimestriel axé sur les résultats. Nous étudierons la faisabilité d'une procession mariale tous les 14 août sur les artères principales de la ville.
Séverin Moussavou, Brazzaville pour Radio Vatican.
Au Nigeria, l'archevêque de Lagos a jugé inacceptable la décision du gouvernement de l'État de Lagos de légaliser l'avortement par des directives législatives. Dans un communiqué publié le 3 juillet, Monseigneur Alfred Adewale Martins a réaffirmé le caractère sacré de la vie prénatale et invité à des consultations plus larges afin de trouver la meilleure approche pour sauvegarder la vie des femmes enceintes que les directives étaient censées protéger.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Nigeria, plus de 300 détenus se sont échappés mardi soir d'une prison située près d'Abuja, la capitale, après une attaque présumée de combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Toujours au Nigeria, des hommes armés ont attaqué mardi soir un convoi transportant des membres de la sécurité du président Muhammadu Buhari avant sa visite dans son état natal du Nord-Ouest. Une approche militaire est insuffisante pour mettre un terme à l'insurrection violente des Chebab en Somalie. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud, soulignant que son gouvernement ne négocierait avec le groupe djihadiste que lorsque le moment sera jugé opportun. À propos du Mali, l'ONU a annoncé mardi qu'au moins 22 migrants maliens sont morts dans un naufrage au large des côtes libyennes. Rendons-nous à présent au Mali où deux casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, ont été tués et 5 autres grièvement blessés mardi dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays en proie à des violences djihadistes. En Tunisie, plusieurs opposants au président Kais Saied ont vu leur compte bancaire gelé par un tribunal mardi. Quelques 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi à mardi au cours de l'attaque menée par une cinquantaine de djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine au sud-est du Niger, près de la frontière avec le Tchad.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine concerne le sommet des pays de la CEDEAO qui s'est achevé dimanche à Accra, la capitale ghanéenne. Francis Lalupo est un journaliste béninois, chercheur associé à l'IRIS à Paris, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique et des conflits émergents. Il dresse le bilan et les perspectives de ce sommet. On l'écoute.
On peut dire que c'est le sommet de la conclusion d'une longue période de tension dans cette région. Tension occasionnée par ces 3 coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Tension également, évidemment, suscitée par les sanctions qui ont été prononcées, notamment contre la junte militaire au Mali. Tension entre les partisans et les adversaires de ces sanctions. Tout ceci a placé cette région dans une situation de crise, de crise politique et également, je dirais, de crise systémique parce qu'en fait, la question était de savoir dès le départ, d'abord, comment gérer ce coup d'État d'une nouvelle génération, des coups d'État qui, désormais, s'appuient sur des calendriers de transition qui sont quasiment similaires à des mandats électifs. Mais la question désormais est de savoir si la CEDEAO pourrait désormais s'attaquer aux causes profondes de la survenue de ce coup d'État. aux facteurs, en tout cas, qui ont fait revenir au cœur de l'actualité dans cette région les coups d'État que l'on croyait révolus.
La CDAO salue les efforts, en particulier au Mali et au Burkina Faso. Elle déplore en revanche le manque de dialogue, en particulier en Guinée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Guinée ?
Absence de dialogue politique, certainement, il faut s'inquiéter pour la Guinée, comme on sait à un moment donné, inquiété également pour le Mali, parce que le Mali et la CDAO, la tension était très vive depuis janvier dernier. Et je pense que ce qui se produit désormais avec la Guinée-Conakry marque, je dirais, une nouvelle époque de négociation entre la CDAO et cette junte guinéenne, partant de l'idée qu'une junte issue d'un coup d'État est en principe, je ne dirais pas nature même, une autorité illégitime. Donc voilà, ce qui s'est produit lors du sommet d'Accra ce week-end, c'est l'aboutissement au fond de multiples négociations entre la CDAO et ces juntes guinéennes, maliennes et burkinabées. Je dirais que c'est une recherche méticuleuse de compromis politique. Je veux dire, cette recherche est d'autant plus intéressante qu'on a insisté en fait à la mise en place d'un protocole de négociation quasiment inédit entre une organisation sous-régionale et des autorités issues de coups d'État. Donc en fait, on a abouti à un compromis. Il faut imaginer que, avec la Guinée-Conakry également, c'est le début, je dirais, d'une négociation, le début d'un processus de négociation qui pourrait aboutir aussi à un compromis pour que la politique reprenne ses droits.
Est-ce que la levée, notamment des sanctions économiques au Mali, comme le gel des avoirs de l'État, a permis de dégager l'horizon politique?
Il faut dire qu'en fait, quand un pays comme le Mali est sous sanctions, ce n'est pas le Mali seul qui souffre des sanctions. Il y a un effet d'entraînement, un effet de répercussion sur le voisinage. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont également beaucoup souffert des sanctions du Mali. Rappelons que la CDAO est un marché régional, un marché commun. De ce point de vue, en fait, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de répercussion. Dès lors qu'un pays est sanctionné, c'est toute la région, je dirais, qui est solidaire en quelque sorte de la sanction et qui en est également victime. Je pense que cet effet d'entraînement, cet effet de solidarité, même dans la difficulté, dans l'épreuve, a été également déterminant dans la décision de la CDAO de lever les sanctions, en tout cas de mettre en place un compromis entre le Mali et l'organisation régionale.
La question humanitaire est également pointée dans le rapport final des pays de la CDAO, en particulier pour le Burkina Faso. Est-ce que cette question humanitaire n'est-elle pas une priorité?
Ce sont là les questions de fond, en réalité. Parce que rappelons que cette région est confrontée à deux enjeux, depuis plusieurs années, l'enjeu démocratique et l'enjeu sécuritaire. La question désormais est de savoir quelle sera la capacité commune dans la région de renforcer et consolider les acquis démocratiques, construire de nouvelles capacités sécuritaires également pour l'ensemble de la région, s'attaquer aux causes profondes de la survenue de ce coup d'État. Et l'enjeu central pour la CDAO, c'est sa capacité à promouvoir et consolider l'état de droit en tant que critère de convergence pour ses États membres.
C'était Francis Laloupo, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique et des conflits émergents, qui répondait aux questions d'Olivier Bonnel.
Vaccin pour tous.
Bouclons cette émission avec le projet Vaccin pour tous en faisant le point de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre la COVID-19, près de 23 millions de doses ont été administrées, mais 6 millions de personnes seulement ont achevé le cycle de vaccination sur une population ivoirienne d'environ 28 millions et demi d'habitants, comme nous l'explique Brugobo Raymond, conseiller technique au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Le taux de vaccination est encore insuffisant.
Pour la cible, 12 ans et plus, il y a les populations complètement vaccinées en valeur absolue, 6 868 440. Ce qui fait pour la population complètement vaccinée sur la cible de 12 ans et plus, 34%. Et les personnes qui ont reçu une dose unique sont 46%. Donc nous tendons vers une stabilité. L'Organisation mondiale de la santé nous demande de rapporter tous ces chiffres sur la population générale estimée de la Côte d'Ivoire. Et sur cette population, eh bien, les personnes ayant reçu une première dose par rapport aux 28 millions sont 33%. Mais nous rappelons que la cible pour que la couverture soit bonne pour toute la Côte d'Ivoire, il faut 70%. Et actuellement, nous sommes à 24%. Donc, il nous reste encore 50% à atteindre pour que la population soit complètement à l'abri de ce virus.
Brugobo Raymond, conseiller technique au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, dans des propos recueillis par Marcel Aristomblé. Chers amis, c'est la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jésus Christus.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.